Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Bientôt 10 jours que l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Yémen et l'Égypte ont rompu avec le Qatar. Motif officiel de cet isolement soudain, Doha accueillerait des groupes terroristes comme la confrérie des frères musulmans Daesh et Al-Qaïda, c'est ce que dit Riyad. Faux, c'est immédiatement défendu le Qatar, dirigé par un jeune émir, le cher Tamim Ben Hamad Al-Thani l'assure, son pays lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Une crise qui contraint la diplomatie française à un délicat exercice d'équilibriste, car comme avec Riyad, Paris et Doha entretiennent d'intenses relations militaires, un engagement mutuel d'assistance en cas d'agression, économique surtout, via de multiples investissements qatariens dans l'Hexagone ou encore l'acquisition par Doha de 24 Rafales pour plus de 6 milliards d'euros. Une proximité qui suscite depuis plusieurs années déjà des inquiétudes croissantes dans l'Hexagone, comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon ou Benoît Hamon. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait critiqué la trop grande complaisance vis-à-vis du Qatar, dénonçant notamment des accords fiscaux. Après sa victoire, du coup, il n'acceptait qu'au bout de plusieurs jours de prendre au téléphone l'émir qui voulait le féliciter. Il aura aussi fallu à l'Élysée plus de 24 heures pour réagir à la crise diplomatique et appeler à l'apaisement. Il est donc bien loin cet été 2008 quand le cher Al-Thani assistait aux côtés du président Sarkozy au défilé du 14 juillet. La France est-elle en train de revoir ses relations avec le Qatar? Le doit-elle? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. L'un est à mes côtés en studio, Georges Malbruno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, co-auteur avec Christian Chesneau du « Nos très chers émirs » qui est paru chez Michel Lafon. Avec nous par téléphone, Nabil Ennasri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire du Qatar, doctorant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous êtes, vous aussi, l'auteur d'un livre, L'énigme du Qatar, qui est paru aux éditions de l'Iris. Alors, pour commencer cette discussion, une question simple, hein, puisque c'est officiellement le cœur de cette crise diplomatique. Georges Malbruno, peut-on affirmer que le Qatar finance bien le terrorisme?
Alors, c'est un raccourci. Le Qatar ne finance pas le terrorisme, en tout cas pas l'État qatarien, mais le Qatar abrite chez lui des financiers privés d'organisations terroristes, dont les noms ont été publiés dans notre livre, là, auquel vous avez fait allusion. Ces noms figurent aussi sur des listes du Département d'État américain. Et donc, par conséquent, le Qatar abrite effectivement ces financiers officiellement privés, qui agissent ou qui ont agi, hein, dans un passé assez récent, probablement pas à l'insu des autorités. C'est toute la question de savoir justement...
Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire, pas à l'insu?
Eh ben, pas à l'insu, ça veut dire que ces gens-là, comme le cher Abdelaziz Al-Noemi, comme d'autres, eh bien, étaient des gens qui étaient proches parfois du Diwan, du bureau de l'émir, et donc qui agissaient, donc, pour le moins, avec une certaine complaisance, mansuétude de la part des autorités qatariennes. Et c'est sur ce point-là que les États-Unis... aujourd'hui, comme hier, eh bien, ont exercé des pressions sur le Qatar. En 2009, Hillary Clinton disait « le Qatar est le moins bon élève du Golfe » dans cette catégorie de financement d'organisations terroristes. Donc, sur ce point-là, le Qatar a des efforts encore à faire. Et d'ailleurs, vous y faisiez allusion, mais Emmanuel Macron, pendant sa campagne, à la fin de sa campagne, a clairement dit « il faudra qu'on me montre justement le distinguo entre financiers privés et financiers publics. Est-ce que ces financiers privés agissent vraiment, comme je le disais, à l'insu des autorités qatariennes ?» Il le disait également aussi pour l'Arabie Saoudite.
Alors, Nabil Ennasri, est-ce que vous faites le même distinguo que Georges Malbruno?
Moi, je serais un peu plus mesuré. Je ne pense pas, en fait, que le Qatar finance directement le terrorisme. En fait, il faut juste revenir, notamment sur le cas syrien, à la temporalité de la crise. C'est-à-dire qu'au cours des années 2011, 2012 et 2013, effectivement, le Qatar, à l'unisson d'autres pays du Golfe, mais également de pays européens, avait soutenu la révolte syrienne et la militarisation de cette révolte. Et en fait, de l'argent a effectivement été déversé à un certain nombre de groupes qui, au cours du temps et du fait de la radicalisation, de la répression de Bachar el-Assad, se sont sectarisés, ils se sont extrémisés entre guillemets. Et donc cet argent a pu, alors qu'au départ il était destiné à l'opposition républicaine, si vous voulez, ou à l'opposition islamique proche des frères musulmans, cet argent, du fait de la recomposition du terrain syrien dans un contexte chaotique de guerre civile extrême, a pu in fine aller dans les bras d'organisations sectaires, djihadistes et terroristes. Lorsque le Qatar, et l'État en particulier, s'est rendu compte que cet argent allait dans des mains peu recommandables, il a immédiatement, évidemment, cessé ses envois de fonds, et les prédicateurs comme Hajjaj al-Ajani, le Koweïtien, a été interdit d'entrer au Qatar à partir de la fin de l'année 2012, et Al-Nouaimi, Abdelaziz Al-Nouaimi, que citait tout à l'heure Jean-Joël Renaud, lui n'est pas en odeur de sainteté auprès des autorités, puisqu'il a été emprisonné, il a été mis de côté pendant plusieurs années donc au Qatar, donc surtout que la pression internationale faisait que le Qatar devait faire très très attention, des lois ont été adoptées.
Donc effectivement, il faut pas faire de raccourcis et parler trop vite, mais vous parlez tous les deux de liens, en tout cas avec le financement terroriste. Je voudrais qu'on en vienne, Georges Malbruno, au positionnement aujourd'hui de la France dans cette crise diplomatique avec ce motif officiel. Alors l'Élysée s'est un peu contenté juste d'appeler au dialogue. Comment est-ce que vous lisez cette position? Est-ce que c'est une forme de lâchage du Qatar ou est-ce que c'est pas du tout ça?
Non, ce n'est pas un lâchage, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, je l'avais révélé dans le Figaro, a mis quand même 5-6 jours avant de prendre cher Tamim au téléphone qui voulait le féliciter. Donc, il y a de la part, je pense, d'Emmanuel Macron, son entourage, une volonté un petit peu de recadrer le Qatar et d'avoir des liens, alors pour le coup, beaucoup moins chaleureux que n'en avait Nicolas Sarkozy et même François Hollande. Simplement, comme vous le disiez, la France a un accord de défense avec le Qatar qui est vieux de 23 ans. Elle a une base militaire aux Émirats Arabes Unis qui est en 2009, et elle a un accord de partenariat stratégique avec l'Arabie Saoudite.
Donc elle peut pas aller trop loin dans le lâchage.
Et puis donc elle a ses amis qui s'entre-déchirent. Simplement, Emmanuel Macron a eu 3 fois au téléphone ces derniers jours Cheikh Tamim, l'émir du Qatar. Il essaie de le convaincre d'effectivement de lâcher un petit peu du lest. Au-delà de ça, je crois quand même que la France prendra un peu ses distances avec le Qatar, parce que il y a cette question du financement privé. Il y a aussi la question aussi, les Français le savent, ils ne voulaient pas le savoir jusqu'à une date récente, mais les Américains l'ont bien expliqué, par le biais du paiement de rançons, notamment à la branche syrienne d'Al-Qaïda, le Qatar a financé par un biais détourné cette branche syrienne, le froid ne sera, pour des plus de 100 millions de dollars, parce qu'ils ont payé plus de 5 ou probablement même beaucoup plus rançon. Donc il y a une façon détournée de financer Al-Qaïda en Syrie, ça on le sait. Il y a aussi l'action quand même du Qatar en Afrique qui pose un problème.
On en notamment parle notre au Nord Mali, on sait qu'à quel point c'est important
Tchad
pour nos
également. En gros, si vous voulez, le Qatar fait aujourd'hui ce que l'Arabie Saoudite a fait dans les années 70-80, lorsque, les pétrodollars coulaient à flot et l'Arabie a arrosé un certain nombre de pays et propageant le wahhabisme. Le Qatar, avec ses excédents budgétaires liés à ses exportations de gaz, eh bien, s'est retrouvé avec une manne financière et effectivement, il investit beaucoup au Tchad, par exemple, on ne sait pas beaucoup, mais à chaque fois, c'est quand même dans un but intéressé. Investit également beaucoup en Europe, dans certains pays, en Italie, en Angleterre et ailleurs, mais des investissements, je dirais, caritatifs sur lesquels je pense qu'on doit s'interroger quand même.
Alors justement, Nabil El Nasri, comment est-ce que vous voyez le positionnement actuel de la France dans cette crise diplomatique? Est-ce que, comme Georges Malbruno, vous dites non, ce n'est pas un lâchage, c'est plutôt une prise de distance?
Je dirais que c'est plutôt une stratégie de la France de ménager la chèvre le chou, c'est-à-dire face à des pays du Golfe aujourd'hui qui sont divisés. La France a un besoin de garder tout simplement des relations au beau fixe avec l'ensemble des protagonistes, puisqu'elle a effectivement un certain nombre d'intérêts financiers importants, des contrats qui sont en cours avec ces pétromonarchies qui regorgent de réserves financières. Ceci étant, je pense que avec ce qui s'est passé ces derniers jours, on va vers une sortie de crise en espérant, enfin, on espère évidemment qu'il puisse contenter l'ensemble des parties. Mais si je peux revenir juste à quelques éléments qui ont été évoqués à l'instant, sur la question du financement du terrorisme, là la France évidemment a enquêté. Lorsque des accusations se sont concentrées sur le Nord Mali, la DGSE est partie sur place, le ministère de la Défense est parti sur place, et les rapports très officiels qui ont été remis à l'époque donc de la présidence de François Hollande disaient qu'il n'y avait pas de présence militaire qatarie en soutien des groupes djihadistes, d'autant que ce serait d'une certaine manière inconcevable, voire irresponsable, pour ne pas dire contre-productif pour le Qatar, de soutenir des groupes extrémistes terroristes au Nord Mali qui sont frontalement en opposition avec un allié central du Qatar qui est la France.
Alors, Alors, peut-être donc, une réaction de Georges Malbruno qui n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre.
Oui, on parle effectivement que les militaires français étaient très, très surpris de découvrir qu'un radar qatarien était au Nord-Mali. Il y a aussi l'action du Qatar en Libye, où là, le Qatar soutient des groupes armés, notamment les brigades nationales de défense de Benghazi, qui ont quand même tué l'an dernier 3 espions français de la DGSE. Et donc là, je crois qu'effectivement, là, les militaires français sont beaucoup plus, je dirais, sourcilleux, beaucoup plus pointilleux que les diplomates, mais ils le savent. Donc, sur tous ces dossiers, je pense que là, il va y avoir une espèce de mise au clair, hein, parce que il faut pas rompre absolument avec le Qatar, c'est un allié, mais il faut dire les choses en face. Et c'est vrai que le Qatar, quand même, a joué ou joue encore dans certaines parties du monde un double jeu et sur lequel on doit être très vigilant.
Quand vous dites dire les choses en face, est-ce que vous êtes en train, par exemple, de faire référence à la manière dont Emmanuel Macron a parlé à Vladimir Poutine quand il l'a reçu à Versailles? Est-ce que ce serait
pas,
ce genre
cas,
de mise au
point? Je pense que c'est ce genre de discours qu'il faut tenir. Et en plus, ce n'est pas parce qu'on ne les tient pas qu'on obtient des résultats commerciaux. On l'a bien vu avec l'Arabie Saoudite. Je veux dire, ce sont des régimes qui aiment qu'on leur parle fermement. Et donc, je pense que c'est ce qu'on dit et c'est ce que je pense Emmanuel Macron fera, parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, dans l'opinion publique, eh bien, il y a une demande, effectivement, de clarification. Tout n'est pas de la faute du Qatar. Il y a aussi en France des hommes politiques qui sont très mal comportés avec les Qatariens, qui sont allés, on le raconte dans notre livre, quémander de l'argent. Donc, tout n'est pas de la faute du Qatar. Mais je crois qu'il faut avoir un langage de fermeté et vis-à-vis de ce petit pays qui est un partenaire, qui a beaucoup d'argent, mais qui a aussi une diplomatie attrape-tout, dont on voit bien aujourd'hui quand même qu'au-delà de l'instrumentalisation de la crise qui est faite par les Émirats, de l'Arabie Saoudite, le Qatar paye quand même, en gros, quand même 10-12 ans à la fois de show-off, de diplomatie en solitaire, de double jeu à l'égard des islamistes. Et donc, je crois qu'il faut...
On est arrivé un petit peu à la limite.
Voilà, il faut que les choses soient dites avec ce pays, mais sans rompre, évidemment.
On va revenir effectivement sur la manière dont les relations pourraient ou doivent évoluer. Mais Damil El Nasri, je voudrais vous poser une question sur la place que pourrait prendre la France dans cette crise diplomatique. Est-ce que la France a une carte à jouer? Est-ce qu'elle peut aider le Qatar à se désenclaver? Le doit-elle?
Je pense que la France va, à l'unisson de l'Union européenne et de beaucoup de pays dans le monde, essayer tout simplement d'obtenir une désescalade de la part de ceux qui opèrent aujourd'hui un blocus quasi hermétique du Qatar. On l'a vu par exemple avec la prise de position forte de l'Allemagne, on l'a vu avec la Grande-Bretagne, on l'a même vu aux États-Unis. Au-delà de Donald Trump, vous avez le Pentagone et le secrétariat d'État qui appellent à une désescalade et à un arrêt du blocus. Je pense que la France ira dans le même sens, puisque ce blocus ne va pas du tout dans l'intérêt. Il est en partie légal sur le registre du droit international, et ça n'est pas tout simplement dans l'intérêt des populations du Golfe de maintenir comme ça une espèce de déchirure qui risque de cliver profondément les pays du Golfe. Mais là encore, par rapport à ce qui a été dit précédemment, excusez-moi de revenir dessus, je pense que le Qatar a le dos rond, c'est-à-dire qu'il est un peu facile de mettre sur la barque Qatar l'ensemble des accusations, parce que finalement le Qatar est tellement émergé sur la sphère médiatique que finalement on pouvait l'accuser de tous les travers. Je prends juste un exemple, par exemple sur la question des investissements. On a beaucoup dit que le Qatar rachetait la France. Quand on prend les chiffres en valeur absolue, c'est 15 milliards de dollars. C'est d'une certaine manière très peu vis-à-vis de tous les investissements étrangers qui s'installent sur notre territoire. C'est moins de 1%. Et vous avez d'autres pays du Golfe qui investissent bien plus largement en France que le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, et qu'on entend peu.
C'est un chiffre qui est aussi dans le livre de Georges Malbruno, effectivement. Mais
oui, c'est vraiment ça que je donnais comme idée, c'est-à-dire que certains ont intérêt à surcharger la barque Qatar pour lui faire porter des responsabilités qu'il n'en a pas, parce que c'est commode de maintenant cibler le Qatar, puisqu'il y a un faisceau d'accusations pour moi qui sont plutôt dehors.
Mais sur cette demande politique, cette demande aussi peut-être de l'opinion dont parlait Georges Malbruno de clarifier les relations, vous pensez que ça n'est pas nécessaire?
Je pense que c'est tout à fait nécessaire pour le Qatar comme pour tous les autres pays dans le monde. Mais je pense que là encore, on fait beaucoup plus de supputations que de réalité. Comme je viens de donner le chiffre en valeur absolue du Qatar, c'est très peu vis-à-vis des autres pays qui investissent en France. Le problème, c'est qu'on parle de rachat et d'achat, qui est un mot marqué négativement dans l'opinion par rapport aux investissements du Qatar. Et on ne dira pas achat pour d'autres pays dans le monde. Donc vous avez cette espèce de dissonance, de dichotomie, de charge un petit peu péjorative dans l'implication du Qatar en France, de mon point de vue, est le reflet d'un certain nombre de fantasmes de la société française et d'intérêts d'un certain nombre d'acteurs politico-médiatiques en France qui ont intérêt, encore une fois, à cibler le Qatar de sorte à ne pas parler d'autres sujets qui les dérangent.
Georges Malbruno, sur cette exception qatarienne, ces fantasmes, vous êtes d'accord?
Non, mais il y a eu un Qatar bashing, notamment en 2013, lorsqu'on avait publié des livres dans l'édition, dans la presse, effectivement. Mais il faut bien voir aussi qu'il y a un Qatar bashing parce que, comme Nabil l'a dit, effectivement, les Émirats arabes unis ont un stock d'investissements directs en France plus important que ceux du Qatar, mais ils n'en parlent pas. Le problème du Qatar, c'est qu'ils aiment qu'on parle d'eux. Et donc, évidemment, aujourd'hui, ils se prennent des coups parce que, et comme en plus, ils n'accompagnent pas leur politique d'investissement d'une politique de communication lorsqu'ils sont accusés, eh bien, là, il y a une espèce de schizophrénie. Donc, il faut aussi qu'ils réagissent. On peut pas, quand on joue dans la cour des grands, comme l'émir père a voulu le faire en 2011, lors des interventions en Libye notamment, eh bien, il faut assumer les risques. Et on voit que le Qatar, de ce point de vue-là, a encore beaucoup à faire. Donc voilà.
Alors, on a beaucoup parlé des avantages fiscaux. François Bayrou a dit qu'il fallait y mettre fin. Donc des avantages qui permettent aux acquéreurs de biens immobiliers venus de Doha de ne pas être imposés sur leur plus-value. Est-ce que ça, par exemple, les supprimer, ça vous semble être une idée intéressante ou c'est de l'affichage du Qatar bashing?
Oh, je pense que c'est un peu d'affichage quand même, parce que c'est une mesure un peu gadget, je pense. D'ailleurs, on a vu qu'après les déclarations d'Emmanuel Macron, de François Bayrou, je crois qu'il y a eu un secrétaire d'État ou un ministre du budget qui a semblé faire un petit peu machine arrière. Non, je crois qu'il y a d'autres domaines sur lesquels...
Alors, sur quoi il faut revoir la relation?
Non,
Nabil El Nasri, peut-être.
Ouais. Sur ce point, là encore, de mon point de vue, ça illustre ce qu'on disait précédemment, parce que les conventions d'exonération fiscale, elles ne sont pas signées qu'avec le Qatar, elles sont signées par exemple avec le Koweït. Or là aussi, on va constamment mettre focus sur le Qatar, d'autant que je rappelle que les Français installés au Qatar ne paient pas d'impôts, donc c'était une forme de réciprocité par rapport aux citoyens qatariens installés en France, donc c'était une mesure de réciprocité fiscale entre des États qui échangent des expatriés, donc on voit bien qu'on en a fait c'est toute une espèce d'affaire nationale alors que c'est relativement peu en valeur absolue et qu'il y a d'autres pays qui en bénéficient dont on n'a jamais parlé.
Georges Malbruno, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Non, je pensais pas. Pour répondre à votre question, je crois qu'il faut prendre les points cas par cas. Prendre l'action du Qatar en Libye avec les brigades nationales de défense de Benghazi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le frère Salabi, un des frères était abrité par Doha, l'autre est un djihadiste, etc. Il faut prendre au cas par cas, au Tchad ou ailleurs. Mais lorsqu'on dit ça au Qatar, les Qatariens disent aussi, mais vous savez, en Afrique, on investit parce que vous autres Français n'investissez plus, n'avez plus les moyens. Donc on comble aussi d'une certaine façon un vide. Donc je pense qu'il faut prendre au cas par cas la politique du Qatar. On a effectivement été content de trouver le Qatar en 2011-2012 en Syrie, lorsqu'on a sous-traité la crise syrienne justement au Qatar et à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a financé le prince Bandar bin Sultan, chef des services de renseignement à l'époque, a ouvert un budget pour financer, y compris les plus extrémistes. Il l'a dit à l'Élysée et ailleurs.
Donc une diplomatie pragmatique et pas de principe.
Voilà, il faut une diplomatie pragmatique et qui quand même ait certaines lignes rouges, quoi. Savoir si on veut que ces pays-là, participent aussi à l'extension de l'islamisme radical en construisant des mosquées à droite à gauche, dont on peut se poser des questions sur leur bien fondé. Voilà, il faut être très pragmatique, mais et non pas se cacher comme on le faisait avant ou lorsque on posait des questions, le Qatar, la liste là du département d'État. Ah non, on demande à la DGSE, on nous dit que le Qatar n'abrite pas chez lui de financiers du terrorisme. C'était des sources ouvertes.
Donc revoir les choses au cas par cas et être pragmatique.
Assainir cette relation et dire au Qatar qu'il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on sera très vigilant.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, co-auteur de nos très chers émirs, chez Michel Lafon. Merci à vous Nabil El Nasri, directeur de l'Observatoire du Qatar, auteur de l'énigme du Qatar aux éditions Liris. Merci également à Quentin Bresson, à Florence Ponce. On se retrouve demain pour un nouveau débat.